Nous avions donc la dernière fois su. Les renseignements sont vains. Commencez de voir le point de vue de la Providence. Dans une éthique religieuse, hein, essayez de comprendre comment, par le problème de la création, il y a immédiatement le gouvernement divin. Et le gouvernement divin est commandé par le point de vue de la Providence. Face à la Providence, il y a une attitude particulière de l'homme religieux. Et cette attitude particulière de l'homme religieux consiste à entrer dans cette attitude de l'abandon, en comprenant bien ce que ça veut dire. L'abandon, c'est le fruit de l'adoration. C'est considérer que la chose principale, c'est de découvrir dans notre vie la volonté de Dieu et de s'y conformer. Et au fond, c'est au cœur de l'éthique d'Épictète. Si vous regardez attentivement l'éthique d'Épictète, et c'est intéressant parce que ça montre bien comment, dans une philosophie qui n'est pas révélée, on aboutit à cette affirmation que la seule chose importante, c'est justement de se conformer à la volonté de Dieu, se lui dit-il. C'est du reste très difficile, très délicat de bien comprendre. C'est pas si commode que ça dans Épictète. Et je prends Épictète pas du tout pour suivre Épictète, mais comme un témoin, comme quelqu'un qui a saisi quelque chose de profondément nouveau, parce que c'est pas dans Aristote. C'est bien évident. C'est pas dans Aristote, parce qu'Aristote n'a jamais parlé de l'éthique religieuse au sens propre. Il en a parlé en politique, qu'il fallait respecter les cérémonies religieuses, la liturgie, qu'il fallait respecter de ce point de vue-là, que l'État doit respecter, mais il n'a pas creusé du tout. Alors, c'est important pour nous, parce que je crois que c'est là où il y a comme un fondement immédiat, une disposition à l'éthique chrétienne. C'est peut-être même le point où l'éthique religieuse rejoint le plus l'éthique chrétienne. C'est toujours intéressant de voir les points de jonction, vous voyez, entre les deux. Comment l'amitié conduit vers une éthique religieuse et comment l'éthique religieuse va être reprise dans un nouvel élan qui sera l'éthique chrétienne. Alors, comprenons qu'est-ce que ça représente, cet abandon au plan philosophique. Je ne parle pas de l'abandon au niveau de la foi et au niveau évangélique, mais au niveau philosophique. Comment, ayant découvert le problème de la création et de la providence, je vois que l'attitude qui correspond à ce gouvernement divin sur moi, à cette providence de Dieu sur moi, c'est l'abandon. C'est-à-dire une attitude de totale confiance. Parce qu'il n'y a pas d'abandon sans une totale confiance. Prenez l'image du gosse, du tout petit, extrêmement significatif. Quand il est dans les bras de sa mère, il se tait, il est heureux, il peut dormir. Et quand vous voulez le prendre dans vos bras, il commence à crier. Il y a quelque chose de très particulier. Pourtant, vous pouvez le faire avec la plus gentillesse possible, sans qu'il y ait aucun changement. On glisse des bras de la mer. Et lui, il s'aperçoit tout de suite. Si vous apercevez le passage d'être dans les bras du Christ, au mari, et mon petit diable qui est là, et là, immédiatement, on comprendrait qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait immédiatement. C'est le sens. Hein. De don du Saint-Esprit qui va me faire comprendre ça. Et bon, c'est une image, hein, c'est pas plus que ça, c'est une image de ce que représente l'abandon. On voit dans les psaumes, hein, c'est dit, il y a dans les psaumes des figures étonnantes pour montrer ce que c'est que l'abandon. Être dans les mains de sa mère, comme dans les bras de Dieu, d'être remis entièrement comme l'enfant qui peut se reposer sur la poitrine de sa mère. Et la même chose par rapport à Dieu, c'est ça l'abandon. Alors, Je crois qu'on peut l'analyser philosophiquement. Et c'est important. Il n'y a pas une vertu nouvelle, je ne crois pas. Il n'y a pas une vertu d'abandon. C'est tout un aspect particulier de vertu, de prudence, et la vertu de religion. Je crois que c'est les deux liés qui commandent en nous cette attitude. Il faut d'abord l'adoration, pas d'abandon sans adoration. C'est ça qu'il ne peut pas y avoir d'abandon en dehors de l'éthique religieuse. Vous ne pouvez pas vous abandonner au sens très fort vis-à-vis d'un ami. On voudrait bien de temps en temps, quand un ami est plus âgé que nous, on voudrait bien pouvoir s'abandonner, on ne peut pas. On s'abandonne qu'à l'égard de Dieu. Il faut cette attitude religieuse, cette attitude d'adoration. Parce que l'adoration nous permet de toucher le roc, hein, nous l'avons déjà vu. L'adoration nous permet de toucher cette volonté actuelle de Dieu sur nous, cette volonté du Créateur et Père. On est porté par son acte d'adoration. L'acte d'adoration nous enveloppe. C'est un acte d'amour et d'amour gratuit où Dieu nous communique ce qu'il veut nous donner. Il crée notre âme. Et notre âme est apparenté à Dieu. Et par l'adoration, je comprends que je découvre le point de départ, la source de mon âme, de mon existence, et je remonte à cette source, et c'est cette source qui me permet de ne plus avoir d'angoisse. Que je crois que l'angoisse naît de l'oubli de l'adoration. Un monde qui oublie l'adoration conduit à l'angoisse. Un milieu, au point de vue culturel, qui n'a plus la dimension de l'adoration, est un milieu qui, forcément, va engendrer de l'angoisse. Notre monde civilisé d'aujourd'hui, je parle de l'Europe, n'est-ce pas ? Notre monde civilisé d'aujourd'hui, eh bien, ne parle plus de cette dimension religieuse. Et il engendre l'angoisse. D'autres civilisations plus simples, mais dans laquelle la dimension religieuse existe, il y a moins d'angoisse. Ça me semble très net. C'est l'oubli de ce que représente le point de vue de l'adoration. Alors, l'oubli du roc sur lequel on s'appuie, c'est pour ça qu'on s'enlise. Bon, au fond, le phénomène de l'angoisse, c'est toujours ça. Il y a l'oubli d'une expérience, c'est pas n'importe quelle expérience, mais c'est l'expérience du roc sur lequel on peut s'appuyer. Alors, l'adoration nous faisant découvrir le roc va permettre cette attitude de remise de toute notre vie entre les mains de Dieu, de comprendre que Dieu veille sur nous, qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Comment voulez-vous nous aimer nous-mêmes si nous ne savons pas que quelqu'un nous aime? Et comme l'amour des hommes est souvent très infidèle, que l'amour des hommes n'a pas la même profondeur, ça nous aide hein, beaucoup. Quand on sait que quelqu'un nous aime, on est déjà en une sécurité beaucoup plus profonde et on commence à s'aimer. Et quand on découvre que c'est Dieu qui nous aime et que Dieu est au-delà de toutes les contingences, au-delà de toutes les luttes, au-delà de toutes les défaites, au-delà de toutes les opinions, à ce moment-là, ça donne une sécurité radicale et fondamentale qui va conduire à l'abandon. Alors l'abandon consiste justement à considérer que nous devons toujours, dans nos diverses initiatives, chercher à rejoindre la volonté de Dieu sur nous. C'est ça le propre de l'abandon. C'est quelque chose de positif, hein, c'est pas négatif. Alors, ne confondons. Il ne faut surtout pas confondre l'abandon moral religieux avec l'abandon psychologique. Hein, même mot. Celui qui est abandonné psychologiquement n'a pas de détermination. Tandis que celui qui est abandonné aux attitudes religieuses a une détermination, la détermination de l'adoration. Et qu'il veut laisser toujours devant la volonté de Dieu. Qu'il veut découvrir cette volonté de Dieu pour pouvoir s'appuyer sur cette volonté et avancer grâce à cette volonté divine qui nous devance toujours. Et donc c'est cette recherche, cette attente patiente et forte. Dans l'abandon, il y a la patience. Dans l'abandon s'exerce donc la force. Et c'est vrai, quelquefois, on doit attendre avant de découvrir la volonté de Dieu sur nous. Quand on ne la découvre pas et qu'on est obligé d'agir, on doit agir toujours en référence avec cette volonté. Si cette volonté se manifeste à nous d'une manière ou d'une autre, on est prêt à changer de décision. Et ça, c'est l'abandon qui vient donner à toute notre vie une attitude très différente que si on était justement unique à se décider. Il y a une prudence religieuse qui intervient là. Et cette prudence religieuse qui intervient là fait que toutes nos actions sont comme offertes. Parce qu'on sait que toutes nos actions et toutes nos activités n'auront d'efficacité, ne seront bonnes que si elles sont conformes à la volonté de Dieu sur nous. Et donc si on ne voit pas, si on est obligé d'agir, parce que quelquefois on ne voit pas du tout, si on est obligé d'agir, on agit avec cette condition et que seule l'éthique religieuse permet de faire. Que si la volonté de Dieu se manifeste à nous comme contraire à notre volonté propre, contraire à ce que nous avons décidé, nous sommes prêts à reprendre. Et ça relativise toutes nos décisions. Ça ne leur enlève absolument pas leur force. Ça ne leur enlève absolument pas leur détermination. Je crois ça très important. Vous voyez, parce que c'est la différence avec le doute et le soupçon. Le doute et le soupçon, c'est par rapport aux autres. Tandis qu'au contraire, par rapport à Dieu, on peut mettre cette note relative sans enlever nos déterminations et ce qu'il y a de fort en nous. Oui, se remettre relatif à Dieu ne détruit pas en nous nos déterminations. Tandis que se mettre relatif aux autres, oui, je fais ça, on va bien voir le résultat. On va bien voir la réaction. Alors, si la réaction est trop forte, je change. Alors là, c'est vous mettre dans le doute. C'est supprimer toutes vos déterminations et tout ce qu'il y a de bon en vous. Et alors à ce moment-là, vous devenez totalement relatif à l'opinion des hommes. Et revenir relatif à l'opinion des hommes, il n'y a rien qui est plus terrible au point de vue de la détermination profonde. Tandis que se mettre relatif à la volonté de Dieu, si cette volonté se manifeste, ce n'est pas du tout enlever en nous la détermination. Vous comprenez bien, parce que l'angoisse naît en nous le jour où il n'y a plus de détermination. C'est pour ça qu'il faut être si farouche pour maintenir la détermination. Et c'est pour ça que, quelquefois, se mettre relative à la volonté de Dieu chez des gens trop fragiles risque immédiatement une poussée psychologique de désespoir. C'est très curieux, ça. Quand on est trop fragile, c'est difficile du reste, parce que à la fois il faut maintenir cette attitude-là, à la fois il faut demander cette attitude-là. C'est fondamental au point de vue de l'attitude religieuse, au point de vue pratique, d'être dans cette attitude d'abandon, de modifier tous ses désirs, toutes ses décisions, si la volonté de Dieu se manifeste. Je crois qu'on ne peut pas mener une vie vraie sans cette attitude-là. Il n'y a pas moyen. Pour moi, c'est nous. Nous passons devant. Et nous passons devant les volontés de Dieu. Nous mettons notre main et notre marque là où on ne devrait pas. On devrait laisser Dieu passer devant. Donc ça me semble fondamental comme au point de vue de l'éthique religieuse. C'est peut-être ça qui caractérise l'éthique religieuse. Mais parce que c'est tout à fait... Elle est caractérisée par l'adoration, mais dans la vie pratique, par rapport à tout ce que nous faisons, parce que ça ne modifie pas. Adorer Dieu ne modifie absolument pas mon travail. Vous comprenez bien. Ça le modifie dans la mesure où l'adoration me conduit à cette attitude d'abandon. Alors, ce qui fait que le travail humain est fait avec autant de force, autant de vigueur, autant d'ardeur, mais il est relativisé. Parce que je ne vis plus pour le travail, je vis pour quelque chose de beaucoup plus important. Je vis pour cette attitude fondamentale de docilité à l'égard de la volonté de Dieu. Et dans cette volonté et cette docilité à l'égard de la volonté de Dieu, il y a tout le problème de l'amitié. Alors c'est pour ça que c'est important de voir comment naît cette attitude d'abandon au niveau religieux, au niveau attitude religieuse. Alors, c'est l'adoration qui permet de découvrir le roc, c'est la prudence qui me permet de considérer que cette adoration n'est pas seulement momentanée, mais qu'elle relève d'une attitude fondamentale. C'est pour ça que la vertu de religion est considérée comme une vertu universelle, et pas uniquement une vertu particulière. Il y a quelque chose de fondamental dans l'attitude de la vertu de religion, dans l'adoration, et qui permet par le fait même de faire que toute ma vie va s'édifier en s'appuyant sur la volonté du Père sur nous, en s'appuyant sur la volonté du Créateur sur moi. En comprenant cette volonté dans la mesure où je peux la rejoindre est plus importante pour moi que tout le reste. Je peux, dans une attitude vraie, au point de vue religieux, l'affirmer. Et je crois ça très important. Parce que ça rectifie fondamentalement notre volonté. Et il n'y a plus de volonté propre. C'est que la volonté propre est comme entièrement brûlé par un désir profond de conformité à la volonté du Père. Par là aussi, vous voyez bien, je m'ouvre, au point de vue de ma vie pratique, à une attitude d'obéissance à l'égard de la volonté de Dieu. Je ne cherche que cela. Et donc je suis dans cette attitude-là, l'attitude de dépendance. Sachant très bien que accepter cette dépendance du Créateur sur moi et de mon Père, c'est au fond m'enrichir. C'est d'être sûr d'édifier quelque chose de stable. D'être sûr d'édifier quelque chose qui est au-delà du temporel. Et il n'y a que là où j'édifie quelque chose d'au-delà du temporel. Au point de vue attitude religieuse. Au point de vue attitude humaine. Je crois que face à ce problème d'abandon, et parallèlement à ce problème d'abandon, qui implique ces différents éléments, donc une attitude, ça ne relève pas d'une vertu, et ça caractérise une attitude religieuse. Parallèlement à ce problème d'abandon, je crois qu'il faudrait situer dans cette éthique religieuse le problème du droit naturel et de la loi naturelle. Le droit naturel et la loi naturelle n'est apparu en philosophie qu'avec les stoïciens. C'est aussi très intéressant ça. Et ça a passé dans la philosophie latine avec Cicéron. C'est bien que la philosophie de Cicéron, c'est du stoïcisme larvé avec une bonne rhétorique. C'est avant tout un rhéteur, mais il est quand même très intéressant. Ça ne devrait pas être, ça devrait pas, Ça devait être intéressant de rencontrer Cicéron, je ne sais pas. C'est sûrement quelqu'un qui était très très cultivé et qui savait dire les choses et puis qui comprenait qu'il était un tournant. Passage de la Grèce au Rome. C'est quand même quelque chose. C'est des tournants très importants dans l'histoire, comme on rappelait tout à l'heure. Mais ça, il y a des tournants aussi très très importants. Et c'est vrai, c'est le passage d'une culture à une autre culture. C'est toujours très émouvant, ça. Et alors, Cicéron représente ça, le passage, par le point de vue de la philosophie stoïcienne. Alors, que représente le point de vue de la loi naturelle? Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? On en parle beaucoup, et en disant, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et plus les gens en parlent, moins ils savent, ordinairement. Et ils mettent la loi naturelle à toutes les sauces. Alors, c'est pas si commode que ça de voir la loi naturelle. Il y a plus une loi naturelle. Alors, évidemment, à un certain moment, on l'affirmait énormément. Aujourd'hui, on serait plutôt tendance inverse, comme on l'a beaucoup affirmé, dire non, il n'y a pas de loi naturelle. Il y a une loi naturelle, mais qui est un jugement, justement, de sagesse. C'est dans la lumière de la création et de la providence divine, il faut comprendre ce qu'est la loi naturelle. Pas uniquement la création et la providence divine. Alors, on peut saisir à ce moment-là ce que représente la loi naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? C'est le regard de sagesse de Dieu qui a créé l'homme comme son chef-d'œuvre. Et Dieu ayant créé l'homme comme son chef-d'œuvre, Dieu veut veiller sur lui, le conduire. Je ne parle pas de prédestination, je parle simplement d'une providence. Et comme Dieu a créé l'homme dans un univers physique, l'homme dépend de cet univers physique. Comme de fait l'homme s'est développé dans une communauté humaine, l'homme dépend de cette communauté humaine. Et dans cette communauté humaine et dans cet univers, il y a certaines choses qui demeurent, qui ne bougent pas, alors que c'est un univers de mouvement, de devenir. Et ce qui ne bouge pas, ce qui s'impose à nous comme nécessaire, ce sera justement les lois naturelles. Vous voyez, au fond, les lois naturelles, c'est essayer de comprendre comment Dieu, créant avec sagesse, va mettre à travers ces créatures physiques qui sont dans le devenir, ces créatures qui sont l'homme, un ordre de sagesse. C'est l'ordre de sagesse communiqué à la créature, la loi naturelle. C'est l'ordre de sagesse présent dans notre monde physique et présent dans notre monde intérieur. L'homme est capable de rejoindre cet ordre naturel, ces lois naturelles. Il est capable de rejoindre cet ordre qui s'impose à lui. Alors, ces lois naturelles, je les regarde comme, pour moi, la volonté de Dieu. C'est ce que les stoïciens disent, et ils ont raison de dire ça. Parce que je ne peux pas changer la loi naturelle, je ne la change pas. Elle est donc l'expression pour moi d'une volonté de Dieu et d'une volonté de sagesse. Et c'est pour ça qu'on pourra, à partir de là, avoir une morale qui aura des précisions plus grandes. Parce qu'elle reposera sur la loi naturelle. Alors, c'est là où il y aurait tout un aspect qui serait très important à saisir. Est-ce que le décalogue, est-ce que la Torah correspond à une loi naturelle? Ou est-ce que la Torah implique quelque chose de plus? Vous voyez, quand je dis loi naturelle, ça implique l'attitude religieuse. Adorer Dieu, c'est une exigence d'un droit naturel et d'une loi naturelle. Et dans la loi, dans la Torah, la première exigence, c'est adorer Dieu, un seul Dieu. Donc la loi naturelle, elle est religieuse. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une loi naturelle laïque. Parce que je crois que la loi naturelle n'apparaît que dans l'attitude d'une réflexion de sagesse. Elle n'apparaît que, philosophiquement, que dans une attitude religieuse. Alors là, elle apparaît comme quelque chose qui est la volonté expresse de Dieu sur l'homme. Alors, prenons quelques exemples, vous voyez, de lois naturelles qui s'imposent à nous et qui exigent de nous une attitude d'obéissance. On obéit parce que c'est l'autorité de Dieu à travers cette loi naturelle. Cette loi naturelle qui est donnée à travers les réalités, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous comme une volonté de Dieu, que la prudence religieuse reconnaît et accepte. La loi naturelle serait, par exemple, de dire que nous devons rechercher notre finalité. C'est une exigence de la loi naturelle. Bonne exigence. Je peux la découvrir philosophiquement, mais pour découvrir le bien et le mal. Le bien et le mal, je ne le découvre pas à partir d'une attitude subjective, je le découvre à partir d'une attitude objective. Il y a dans la nature quelque chose qui m'indique ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous voyez, j'ai parlé de nature. Je crois que la loi naturelle nous fait comprendre ce que c'est que la nature humaine. La nature humaine, j'ai pu en parler avant, au point de vue philosophique, c'est sûr, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, parce que dans cette nature humaine, il y a une intention profonde en vue du bonheur. En vue de l'acquisition de quelque chose qui me donne un bonheur, c'est-à-dire l'épanouissement parfait de la nature humaine. Et je crois que la providence, avec le point de vue de la loi naturelle, va me permettre de mieux comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors on pourra toujours discuter, ce sera ça une chose très difficile du reste à voir, dans quelle mesure cette loi naturelle se lie à des traditions religieuses. Et ces traditions religieuses peuvent impliquer des quantités de choses qui ne sont pas vraies. Et des traditions religieuses, par exemple, d'ascèse, les aliments purs et les aliments impurs. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, pratiquement dans tout le pythagorisme, les aliments purs et les aliments impurs, dans la tradition religieuse juive. Alors, le dépassement de cette distinction qui implique une libération. Les traditions religieuses nous lient de cette manière-là. Alors, est-ce que par l'aide d'une loi naturelle, c'est le rôle du philosophe, un rôle que le philosophe en fait très rarement, c'est le rôle du philosophe de dépouiller, de purifier la loi naturelle de certaines traditions religieuses qui n'ont plus rien à voir avec la loi naturelle et qui sont pourtant bloquées. Prenez l'exemple du mariage. Est-ce que le mariage relève d'une loi naturelle? Est-ce que le fait le mariage implique la monogamie, Est-ce que c'est de droit naturel? Est-ce que la polygamie est nécessairement quelque chose qui va contre la loi naturelle? Vous voyez comme c'est difficile à voir. Est-ce que le mariage qui implique la fidélité, l'indissolubilité du mariage, est-elle de droit naturel? C'est très délicat de voir ça. Et c'est très important au point de vue philosophique. Ça n'a pas l'air du tout, c'est très important de voir si c'est de droit naturel ou pas de droit naturel. Enfin, si on a la foi, on se dit, ah bon, je peux me passer de ça. Oui, mais vous rencontrerez des gens qui n'auront pas la foi et qui pourront vous soutenir certaines choses. Si vous n'avez pas réfléchi philosophiquement, vous ne pourrez pas répondre. Un croyant peut certifier en face d'un autre croyant qu'il est dans une situation qui n'est pas tout à fait celle qui devrait être. Hein. Parce qu'il n'obéit pas au dernier précepte du Saint-Siège. Il a pris de petites habitudes, et ça se prend très vite, il a pris de petites habitudes de cérémonie pénitentielle et donné une absolution générale, ça se prend très très vite, hein, parce que les curés sont fatigués, alors ça se prend très très vite, plutôt que de passer toute la journée à confesser, vous comprenez, en une demi-heure, et tout le monde est content. Le critère, c'est que tout le monde soit content. C'est tellement plus facile. C'est tellement ennuyeux, la confession individuelle et personnelle. Surtout quand ça doit se faire en série. Non ? Alors, comme tout le monde est content, critère épicurien. C'est dans la mesure où tout le monde est content qu'on peut dire qu'on est dans la vérité. Il y a une certaine joie, une certaine libération. Alors, là, il y a les exigences, les dernières exigences qui viennent de Rome me rappellent quelque chose. Enfin, je discute entre croyants. Mais si j'ai affaire à quelqu'un qui ne croit pas, qui délibérément dit non, non, je suis en dehors de l'Église, je suis vivant, et puis qui, au point de vue mariage, commence à parler de la question de l'indissolubilité du mariage. Très coincé. Et c'est vrai que c'est une question très difficile. Très difficile. Savoir si l'indissolubilité du mariage est de droit naturel. Je crois que c'est de droit naturel, personnellement. Je crois que c'est de droit naturel. Mais c'est très difficile de donner l'argumentation propre. Et je crois que l'argumentation propre, c'est par rapport à l'amour d'amitié. Oui. Le premier argument, c'est l'amour d'amitié. Puisque le mariage est fondé là-dessus. Et puis alors ensuite, c'est l'enfant. Parce que vous voyez, cet argument-là ferait que quand les enfants sont tous casés, on met de nouveaux livres pour commencer notre vie. Et on aime mieux prendre une nouvelle femme beaucoup plus jeune. C'est un argument qui joue à un moment donné, mais qui ne joue pas tout le temps. Donc, ce n'est pas l'argument propre. Et l'argument propre, c'est, je crois, montrer comment l'amour d'amitié réclame la fidélité, étant donné ce que représente l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est quelque chose qui va tellement loin quand on réfléchit sur ce que représente la réciprocité dans l'amour d'amitié. Quand on comprend le don qui est impliqué dans le point de vue de l'amour d'amitié. Toute amitié demande d'être fidèle. Mais alors, l'amitié dans le mariage implique une double fidélité à cause du don des corps. Alors, il y a une fidélité beaucoup plus profonde qui est exigée. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, l'argument de l'éducation, ça c'est sûr. Oui. Non. L'amitié au niveau humain. Il faut bien, je suis bien obligé de regarder ça.
Oui, parce que vous regardez l'amitié en elle-même, naturelle. La loi naturelle n'est explicitée que dans une vision religieuse. Indépendamment, si je n'ai pas, si je n'arrive pas à ce niveau de l'éthique religieuse, je ne peux pas en parler. Mais dans la vision, je cherche quel est le fondement. Je dis la vision. C'est un regard. Parler de loi naturelle uniquement en éthique humaine. C'est un très très gros point, ça. Je ne vais pas dire que certains sont à parler de la loi naturelle. L'éthique est fondée sur la loi naturelle. Et non, l'éthique n'est pas fondée sur la loi naturelle, c'est l'éthique qui fonde la loi naturelle. C'est bien différent. Et la loi naturelle, nous la voyons à partir de cette vision très jeune. Nous essayons de comprendre que représente exactement la loi naturelle qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas la loi positive. La loi positive va préciser qu'il faut aller devant le maire pour se marier. La loi naturelle, c'est quelque chose d'un but positif. Mais comme dans l'Église, les décisions de l'Église, la pénitence personnelle ou universelle, est-ce que c'est de loi positive ou de droit divin? Au sacrement qui vient du droit divin. Et de voir que le sacrement du pardon est une chose personnelle. Si c'est une chose personnelle, ça exige le contact personnel. Donc on peut dire que c'est du droit divin le point de vue du sacrement de pénitence qui implique la question. Alors on retrouve aussi le droit divin et le droit positif. Comme on retrouve au niveau loi naturelle et loi positive. Et la loi naturelle est fondée directement sur la sagesse de Dieu. Donc, vous voyez, là, il y a tout un très gros problème qu'on développe très peu au plan philosophique, mais qui se doit se développer dans une éthique religieuse. Dans une éthique religieuse, je dois développer et je dois voir apparaître la loi naturelle comme fruit directement de la création a été faite par Dieu dans sa terre. C'est l'ordre de la sagesse de Dieu qui apparaît pour l'homme. C'est l'homme qui est pour l'homme. C'est un mot de l'homme qui est pour l'homme. C'est ce qui est plus parfait et ce qui est plus parfait. La loi de perfection. Moi, je prends l'amitié. Alors, je crois, quand vous dites perfection, c'est vrai, et je crois que ça revient tout simplement à l'amitié. La perfection de l'acte d'amitié, de l'amour d'amitié, est telle qu'il s'agit de la fidélité à l'amitié. Et les droits naturels, les droits de l'homme, comme on dit, les droits de l'homme, alors pour nous, ça a pris une tonalité assez particulière, les droits de l'homme, au fond, les droits de l'homme pris philosophiquement rejoignent la loi naturelle, parce que les droits de l'homme, c'est pas les droits de la nature. C'est l'homme en tant que nature, et rien, il est seulement de droit. Le chien n'a pas de droit naturel en tant que chien. Mais s'il est lié à son propriétaire, il a le droit d'avoir une petite sur le dos, il participe au droit de propriété. Alors il participe à ce moment-là. Il appartient à quelqu'un. S'il appartient à quelqu'un, il y a ce vivant que c'est un homme. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme ne sont vrais que dans la mesure où ils sont en fond de l'homme. Vous êtes en face d'une tradition humaine et les gens s'appuient là-dessus. La preuve, c'est qu'à certains moments, ça disparaît. Vous voyez pour la liberté d'école, la liberté d'enseignement, comme ça disparaît. Et au fond, c'est dans une grosse sagesse que vous pouvez vraiment le défendre. En dehors d'une grosse sagesse, je ne crois pas. C'est une question très importante, difficile, parce que je crois qu'on ne peut pas parler de loi naturelle indépendamment de ce que je veux. Alors, si je parle de loi de l'homme, et sans raison, je crois qu'on est parti de loi naturelle. Alors, vous pouvez dire, c'est-à-dire comment vous tombez dans le point de vue politique, la politique sanitaire, le point de vue de la famille. Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, de ça. La disponibilité de la famille du mariage, très bien, que la famille ne peut être vraiment regardée que dans une vie religieuse. C'est dans une vie religieuse. Et que dans la mesure même, cette vie religieuse disparaît, et que cette vision disparaît, c'est pas comme ça. Et quand vous regardez les jeunes, n'accepte plus, il est devenu libre. C'est pour ça que moi je crois que ça repose sur un aspect éthique-religieux. Et que dès que cette éthique-religieuse disparaît, vous ne pouvez plus légitimer ça. Et vous êtes en face d'une attitude d'un libéralisme, si vous voulez, qui ne va pas. Et qui ne va pas les habitudes.
Lorsque la loi naturelle est respectée, donc l'accord, la concordia politique en général, est respectée aussi. Et dans ce sens-là, peut-être on peut dire à partir de certaines expériences de la communauté humaine, des lois générales, où on peut dire quand ce qui est respecté en général.
Historiquement, tout est éthique et religieux. Je n'ai jamais vu les théories. Tout est éthique et religieux. Historiquement, c'est ça, c'est très net ce qui s'est écrit. Alors, l'éthique religieuse, petit à petit, se corrompt et devient l'éthique et religieuse. Il y a très peu d'éthique et religieuse en dehors du chrétien. Ça n'est pas tout. C'est phénomène chrétien. Corruption, obstination, flèche, verticale. C'est très très curieux. Je crois que tout ce qui est mis dans une éthique religieuse, et une éthique religieuse garde à la conscience. Il y a la famille, il y a le côté sacré de la famille, de là il y a le point de vue politique, et le point de vue politique a quelque chose aussi de religieux. Dans notre monde d'aujourd'hui, on est en présence d'une éthique laïque, mais en présence d'une équipe déchassée, qui a quitté le point de vue chrétien, vous voyez, et qui l'a utilisé.
On doit savoir si le droit naturel repose sur le vision de la geste, ou au contraire, alors je dirais, pour nous, constamment, pour beaucoup de gens, parfois c'est des traditions. On ne sait pas très bien d'être en milieu, on ne sait pas bien, on ne sait pas, c'est des traditions. Si je réfléchis bien où se fait la tradition, je dis que c'est ce que nous avons besoin de la vie. Le Seigneur vous êtes bénie entre vous et les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.